Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il s'appelle Jean-Pierre Farandou, il a 62 ans, il est cheminot depuis 81. Il a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger la SNCF. Il succédera à Guillaume Pepy si les parlementaires valident sa nomination.
La République, c'est moi, les mots de Jean-Luc Mélenchon. Il y a près d'un an, le procès du chef de file de la France insoumise s'ouvre aujourd'hui. Il est poursuivi pour actes d'intimidation et rébellion.
Après Washington, New York, la militante écologiste Greta Thunberg poursuit son voyage aux États-Unis. Elle tente de sensibiliser les Américains au changement climatique, mais n'est pas aussi populaire qu'en Europe, nous expliquera Loïc Loury. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, portrait présidentiel décroché. La justice peut-elle encourager la désobéissance civile? Nous poserons la question à Didier Rebut. Il est professeur de droit pénal à l'université Paris 2 Panthéon Assas.
Mais d'abord, on l'a appris il y a quelques minutes, le tribunal de Tokyo vient d'acquitter trois ex-dirigeants de TEPCO, estimant qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'était il y a 8 ans. La centrale dont TEPCO était l'opérateur avait été dévastée par un tsunami. Il s'agit du pire accident nucléaire après Tchernobyl en Ukraine en 1986. On y reviendra plus longuement dans le journal de 8 heures.
Et pour la première fois depuis 2008, Margot, la SNCF change de patron.
Emmanuel Macron a désigné Jean-Pierre Farandou pour succéder à Guillaume Pepy à la tête de la société ferroviaire. Il devrait prendre ses fonctions le 1er janvier 2020. Jean-Pierre Farandou, actuel patron de Keolis, filiale de la SNCF, est un proche de Guillaume Pepy. Son portrait par Hakim Kasmi.
En choisissant Jean-Pierre Farandou, un homme du sérail, l'Élysée a donc joué la carte de l'expérience. Âgé de 62 ans, il connaît très bien la SNCF, où il y a fait l'ensemble de sa carrière. En commençant comme simple chef de gare, pour prendre ensuite de hautes fonctions comme ingénieur, notamment en lançant la ligne de TGV Paris-Lille. C'est fort de cette expérience qu'il a dirigé pendant 7 ans Keolis, une filiale de la SNCF, où il a connu de nombreux succès en France comme à l'international, dans le domaine des trains, des bus et des tramways. Une expérience et un savoir-faire qui lui seront nécessaires pour répondre aux nombreux défis qui l'attendent à la tête de la SNCF. À commencer par la fin du statut de cheminot, à partir du 1er janvier 2020, les négociations entre la direction et les syndicats ont d'ailleurs lieu en ce moment et doivent se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Autre gros dossier chaud, l'ouverture à la concurrence dès l'année prochaine sur la ligne TGV, puis ensuite sur les TER. La SNCF, qui deviendra aussi à partir du 1er janvier une société anonyme à capitaux publics, n'aura donc plus le monopole. Le savoir-faire de Jean-Pierre Farandou en matière d'appel d'offres sera donc un véritable atout. Quant aux syndicats, ils restent prudents et ne s'attendent pas à une véritable révolution, car ils savent que leur nouveau patron appliquera la feuille de route entamée par son prédécesseur Guillaume Pepy et par le gouvernement.
Hakim Kasmi. Le député Jean-Luc Mélenchon devant la justice. Son procès au tribunal de Bobigny s'ouvre ce matin. Avec 5 de ses proches, ils sont poursuivis pour actes d'intimidation envers un magistrat et de rébellion commis en réunion. Tout le monde s'en souvient, les images avaient beaucoup circulé. C'était en octobre 2018, pendant des perquisitions dans les locaux de la France Insoumise. Le fondateur du mouvement politique avait exigé d'assister à ces perquisitions et forcé la porte gardée par un policier. Son image s'en est retrouvée terni, Stéphane Robert.
Depuis bientôt un an, Jean-Luc Mélenchon vit un cauchemar. Depuis ce matin du 16 octobre 2018, date à laquelle une perquisition est menée au siège de la France Insoumise et au cours de laquelle il s'emporte et déclare ceci.
Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte!
La scène à l'époque tourne en boucle, dans les médias, sur les réseaux sociaux, détériorant l'image du candidat qui a fait presque 20% au premier tour de la présidentielle et discréditant son mouvement, la France Insoumise, aux yeux d'une importante partie de l'opinion. Aujourd'hui, avec ce procès qui s'ouvre à Bobigny, Jean-Luc Mélenchon entend prendre une revanche en se présentant comme une victime et en dénonçant un complot destiné à lui nuire.
Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. Madame Belloubet est personnellement impliquée dans cette histoire. Et quand elle dit que je fais preuve de paranoïa, je trouve ça pas bien du tout. Je tiens à ce que tout le monde sache que je ne crois personne. Je ne crois pas les juges, je ne crois personne. Et je n'ai pas confiance dans la justice.
Alors, Jean-Luc Mélenchon développe cette hypothèse d'un complot contre sa personne et son mouvement dans un livre intitulé « Et ainsi de suite » qui sort aujourd'hui même en librairie, manière pour lui de faire de ce procès une tribune politique. Il y dénonce une police et une justice instrumentalisées par le pouvoir en place et par Emmanuel Macron, mais prend parallèlement le risque d'apparaître, lui, dans un délire de persécution.
L'actualité politique dans l'hémicycle, cette fois, le Rassemblement national pourra s'exprimer à l'Assemblée pendant le débat sur l'immigration voulu par le gouvernement grâce à un député non inscrit. Les parlementaires du parti de Marine Le Pen n'avaient pas de temps de parole prévu, mais l'ancien LREM Mathieu Orphelin a choisi de leur céder ces précieuses minutes, et il a ses raisons.
D'abord, effectivement, un geste démocratique parce que c'est important que les partis puissent s'exprimer tous sur ce grand débat immigration. Parce que aussi, Marine Le Pen et le Rassemblement national essayaient de faire naître une polémique inutile en disant on est bâillonné à l'Assemblée nationale. Elle est bâillonnée en rien, Marine Le Pen, si on l'entend peu à l'Assemblée nationale, parce qu'elle n'est pas souvent là. Elle a un nombre de présences très faible et très peu d'interventions aussi, donc c'est elle-même qui se bâillonne. Mais là, sur ce débat en particulier, le règlement de l'Assemblée nationale fait qu'il ne pouvait y avoir qu'un député non inscrit. Nous sommes 14, c'est moi qui avais eu l'intervention cette fois-là. Et donc je renonce à mon intervention de 5 minutes. Et donc celui qui était premier en liste d'attente, donc un député Rassemblement national, va pouvoir s'exprimer. Voilà, donc cette fausse polémique qu'avait lancée Marine Le Pen et qu'elle entretenait avec les autres élus du Rassemblement national depuis 3-4 jours, disant on est bâillonnés, n'a plus lieu d'être. Ils vont pouvoir exprimer leurs idées, qui sont des idées contre lesquelles je me bats depuis des années. Évidemment, pour moi, c'est l'opposé des réponses qu'il faut apporter, mais au moins ça coupe l'herbe sur le pied. Ils pourront, comme les autres partis politiques, s'exprimer à l'Assemblée nationale.
Le député Mathieu Orphelin. Édouard Philippe recevra ce soir à Matignon une délégation d'entreprises du secteur du médicament. Certains traitements sont en pénurie. Les signalements de tensions d'approvisionnement ont été multipliés par 20 en 10 ans, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Agnès Buzyn avait présenté en juillet une feuille de route provisoire. Elle devait aboutir à un plan définitif en septembre. La ministre de la Santé sera présente à cette réunion. Les agents d'EDF appelés à faire grève, l'intersyndicale s'inquiète du projet Hercule, projet de réorganisation d'EDF en deux entités. On y reviendra dans le journal de 8h.
De la COP24 en Pologne au siège de l'ONU, Greta Thunberg mène son combat pour la protection de la planète toujours plus haut.
Elle s'exprimera lundi prochain au sommet des Nations Unies sur le climat. Hier, la jeune militante suédoise était au Congrès américain. Elle multiplie les apparitions aux États-Unis depuis son arrivée sur un bateau certifié zéro émission, espérant mobiliser la population qui ne la connaît pas bien, Loïc Loury.
Des sit-ins comme ici à New York, une manifestation timide devant la Maison Blanche et des messages, des photos, des vidéos relayées chaque jour sur les réseaux sociaux. Depuis son arrivée, Greta Thunberg parle peu mais essaye de faire parler d'elle. La jeune activiste était hier au Congrès face à des élus avec, sous le bras, un rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat.
I am submitting this report.
Je vous soumets ce rapport, c'est mon témoignage, parce que je ne veux pas que vous m'écoutiez moi, je souhaite que vous écoutiez les scientifiques, et je veux que vous fassiez front commun derrière la science.
Et ce message, Greta Thunberg le martèle depuis son arrivée aux États-Unis, croyez la science, au pays du climato-sceptique Donald Trump. Le président actuel jusque-là n'a pas eu un mot pour la jeune activiste, au contraire de son prédécesseur Barack Obama. L'ex-président a reçu la Suédoise ce mardi à Washington.
Merci beaucoup de passer dire bonjour.
Merci de me recevoir.
Bien sûr, tu es en train de changer le monde. On est très heureux de t'avoir ici.
Des relais comme celui-ci, Greta Thunberg en aura besoin pour mobiliser la jeune activiste. En effet, ne suscite pas outre-Atlantique le même engouement qu'en Europe. Premier vrai test ce vendredi avec une grande manifestation prévue à New York. Bonne nouvelle, la ville a autorisé ses élèves pour l'occasion à sécher les cours.
Et on a appris hier que la Californie, à la pointe du combat contre le réchauffement climatique, ne pourra plus fixer ses propres normes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le président américain leur retire ce droit afin, selon lui, de produire des voitures bien moins chères pour les consommateurs. Donald Trump l'a annoncé en pleine visite dans cet État dirigé par ses adversaires démocrates qui vont contester cette décision. Donald Trump qui a envoyé cette semaine le chef de la diplomatie américaine en Arabie Saoudite après l'attaque d'installations pétrolières du royaume. Pour Mike Pompeo, c'est un acte de guerre qu'il attribue de nouveau à l'Iran. Le président des États-Unis a ordonné hier un durcissement des sanctions contre l'Iran, sans donner plus de détails pour le moment. C'est encore flou en Israël aussi. Le premier ministre est dans l'incapacité de former un gouvernement. Son parti de droite est arrivé au coude à coude avec la formation centriste de son rival Benny Gantz aux législatives. Parce qu'il doit maintenant négocier en coulisses, Benjamin Netanyahou a été contraint d'annuler son déplacement aux États-Unis. Il devait notamment assister à l'Assemblée générale de l'ONU. Il avait été arrêté le 8 mai après la tentative ratée de soulèvement militaire contre le pouvoir socialiste. Le numéro 2 du Parlement vénézuélien, Edgar Zambrano, a été libéré mardi. On pourrait croire que cette nouvelle réjouit les opposants de Nicolas Maduro. En réalité, ils sont divisés sur la question. Sa libération est le résultat d'un accord passé entre le gouvernement et des partis minoritaires. Un accord rejeté par la figure de l'opposition Juan Guaido, Benjamin Delisle.
La libération d'Edgar Zambrano est paradoxale. Pour la majorité de l'opposition, c'est à la fois un soulagement et une frustration. D'autant que le vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas totalement libre, il devra pointer tous les 30 jours au tribunal et il n'a pas le droit de quitter le pays. En annonçant cette libération, le procureur de la République, Tarek William Saab, a clairement précisé qu'elle faisait suite à des accords partiels conclus lundi dernier entre le gouvernement et des secteurs de l'opposition. L'accord ne concerne en fait que plusieurs partis minoritaires à l'Assemblée nationale et semble davantage destiné à affaiblir Juan Guaido. La veille, celui qui se revendique président par intérim avait annoncé l'échec des négociations en cours à cause, selon lui, du refus du gouvernement d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Mais Nicolas Maduro a enfoncé le clou mardi en affirmant qu'il était prêt à reprendre ses négociations avec l'ensemble de l'opposition. Une manière de renvoyer l'image d'un gouvernement ouvert à la négociation face à une opposition majoritairement fermée au dialogue. Les députés toujours fidèles à Juan Guaido s'en défendent. Selon eux, le gouvernement utilise les prisonniers politiques comme une monnaie d'échange afin de retarder ce qu'il juge inévitable, une nouvelle élection présidentielle qui verra le départ de Nicolas Maduro. La première déclaration d'Edgar Zambrano libéré a bien illustré la situation compliquée dans laquelle se trouve l'opposition. Après avoir dénoncé son arrestation arbitraire et les conditions de sa détention, il a pourtant rappelé que le dialogue était l'unique mécanisme qui pourrait sortir le pays de l'impasse.
La correspondance de Benjamin Delisle au Venezuela. Le temps aujourd'hui ressemble à celui d'hier. Du soleil pour la majeure partie du pays, du gris dans le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie, toujours quelques orages à craindre. Les températures cet après-midi, 18 à Lille et Cherbourg, 21 degrés à Paris, 24 à Lyon et 27 à Montpellier, Guillaume.
Merci beaucoup. Margot Delpierre.